En frères et sœurs, un chat dans la gorge. Il y a plus souvent que nous pensons des querelles qui ont conduit des familles à se diviser, des enfants qui reprochent à leur mère de les avoir rejetés. Ça produit des phrases comme « J'ai plus ma mère, elle m'a livré à la police et je suis allé en prison ». Ou encore, ma mère vient juste de mourir et voilà que mon père s'est trouvé une amie de cœur. Et mon frère, c'est un vendeur de drogue. Je ne veux plus qu'il vienne chez moi vendre à mes enfants. Dans tous ces cas, des mères, des pères, des frères ne sont plus considérés comme étant de la famille. Ils sont exclus de la vie d'un des leurs. D'une manière différente, j'insiste, le chapitre 3 de l'Évangile de Marc nous parle de la famille de Jésus. Famille que Jésus aime toujours, mais qu'il place au second rang. Notre Évangile commence au verset 31 de l'Évangile de Marc. Mais il faut retourner au verset 20 pour nous situer. Et le verset 20 nous apprend que Jésus revient à la maison. Moi, quand je dis ça, je m'en vais à la maison, mais tout le monde sait que je m'en vais chez moi. Et donc, quand on dit que Jésus revient à la maison, bien, on parle vraiment d'une maison que Jésus a. Et cette maison, elle est en Galilée, dans sa province. Elle est dans le village de Capharnaüm. Ce n'est pas indiqué dans le chapitre. Mais tous sont d'accord que Jésus avait une maison, un pied à terre. Bon, quand on parle d'une maison en Israël, c'est une cabane carrée, puis c'est la cuisine, puis c'est la chambre, puis c'est le salon, puis tout le reste. Nous savons que Nazareth, où il a vécu toute sa jeunesse et sa vie adulte, avant de commencer son ministère, ce n'est pas très éloigné de Capharnaüm, c'est assez proche. Alors, au verset 21 et les suivants, on apprend que sa popularité s'est répandue dans la région et que des gens sont arrivés chez lui, sont entrés dans la maison, les gens étaient effrontés dans ce temps-là, ils sont entrés dans la maison et il occupe tout l'espace de la maison, devant la maison et autour de la maison. Alors, la maison est comme prise en otage. Et là, Jésus, lui, voyant ces gens qui sont là pour lui, commence à leur parler. Mais des gens de sa famille ont appris ce qui se passait. Et ils viennent, on dit dans le texte, se saisir de lui. Se saisir de lui, là, ça laisse entendre qu'ils vont utiliser la force. Ils vont utiliser la force pour le faire entendre raison. Parce que ces gens de la famille, c'est pas les proches, là, ils sont de sa famille. On est toujours au verset 21, avant le texte d'aujourd'hui. Alors, ils croient, eux, que Jésus a perdu la tête, qu'il est devenu un huluberlu. Et ils ne comprennent pas les paroles dans lesquelles il parle du royaume de Dieu en appelant Dieu son Père. Ils disent, il est devenu fou, Dieu son Père, voyons. Et des membres de sa famille croient vraiment qu'il a perdu la raison. Donc, je le répète, ce ne sont pas des membres proches de sa famille, mais un peu plus tard, donc on revient au verset 31, alors qu'il enseigne toujours dans la même maison, on vient lui dire que sa mère et ses frères sont dehors et qu'ils veulent lui parler. La réponse de Jésus pourrait être vue comme blessante, je pense que oui. On pourrait dire qu'il était ingrat, en tout cas en surface, qu'il est sans cœur. Qui est ma mère, qui sont mes frères. Voyons donc. Et regardant ceux et celles qui sont assis autour de lui, il déclare, voici ma mère, voici mes frères. Regardant les gens autour de lui, ça veut dire qu'avant de donner cette réponse-là, voici ma mère, mes frères, on dirait que Jésus prend le temps de réfléchir. Hein? Il ne répond pas sur un coup de tête. Un enfant qui dit, Hey, tu n'es pas ma mère. Ça blesse beaucoup sa mère. Il atteint sa mère dans ce qu'elle a de plus inviolable en elle. C'est la même chose pour Marie. C'est la même chose pour sa famille. Cependant, la réponse de Jésus, elle n'a pas pour objet de blesser ses proches. On peut comprendre si on se réfère au couple de jeunes gens qui se marient. Le jeune homme et la jeune fille se sont rencontrés et l'amour les appelle à vivre l'un pour l'autre dans l'union conjugale. Et ensemble, ils veulent faire fructifier leur amour en ayant des enfants. Ils vont vivre ailleurs qu'avec leur père et leur mère, leurs frères et leurs sœurs. Ils vont vivre pour leurs enfants. Si vous leur demandez comment vont leurs familles, ils vont vous parler d'abord de leur conjointe ou de leur conjoint et de leurs enfants. Ils ne parleront pas de leur père ou de leur mère. C'est eux, leur famille, conjoint, enfant. Ils apprennent à se détacher de leur père et de leur mère, de leurs frères et de leurs sœurs, pour se consacrer à autre chose qui prend maintenant toute la place. C'est ça, un couple. C'est ce qui produit quand les gens s'épousent. Est-ce qu'ils rejettent leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères? Pas du tout. Alors, c'est la même chose pour Jésus. Il a compris quelle était sa mission. Il a réalisé que tous ces gens qu'il suivent sont importants aux yeux de Dieu. Et bien plus, il sait que leur salut repose sur lui. Il a la certitude que lorsqu'il ne sera plus là, ils pourront se réunir en une famille de frères et de sœurs qui marcheront ensemble vers la vraie vie, celle qui ne finit pas, celle qu'il leur méritera. Et dans cette optique, Jésus pense à l'Église comme sa vraie famille. Alors pour lui, comme pour les époux, la famille qu'il fonde, son Église, est plus importante que tout. Voilà pourquoi il répond « Voilà ma mère, voilà mes frères et sœurs. » Et pour appartenir à cette famille ecclésiale, il faut simplement faire quoi? Faire la volonté de Dieu. Quand la foule était assise autour de lui et posait des questions au Seigneur, on peut imaginer qu'il demandait les mêmes choses que nous. D'où vient la vie? Où allons-nous? À quoi sert de vivre les misères de cette vie si nous finissons tous 6 pieds sous terre au cimetière? Quel est le sens de ma vie? Nous laissons jaillir toutes ces questions dans nos cœurs en nous approchant du Christ comme ces gens d'autrefois. Et nous entendons sa réponse. Accomplis ma volonté. Si Dieu nous aime, si nous sommes tous frères et sœurs, nous vivrons notre foi en manifestant cet amour autour de nous. Rappelez-vous les paroles de Saint Jacques. On ne lit pas souvent la lettre de Saint Jacques. Qu'est-ce qu'il a dit, Saint Jacques? Il a dit, « Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. » C'est au chapitre 2 de la lettre de Jacques, au verset 17. Et ça signifie quoi? Ça signifie que si la foi n'agit pas, c'est qu'elle est morte. Agir, action. Alors, frères et sœurs, soyons les mains de Dieu pour servir nos frères et nos sœurs. De cette façon, nous grandirons dans la fraternité sous le regard de notre Père. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ouvrons les yeux. Ils sont là, autour de nous.